Au bord du lit, des aventures sonores créées sur mesure pour te faire voyager en restant sous ta couette. Tous les deuxièmes dimanches du mois, à 11h, prends le temps d'émerger au rythme d'histoires palpitantes et envoûtantes sur Prune 92 FM et en podcast sur prune.net.
Le soleil brille dehors. En ce beau matin d'automne, les oiseaux chantent et on se retrouve au bord du lit pour la suite des aventures de Vera et Alda en compagnie de Raph.
Salut.
Salut Raph. Mais d'abord, on va revenir sur le processus d'écriture de l'émission parce qu'on a eu des retours qui nous disaient que c'était pas très très clair la place des cartes de tarot dans le processus créatif. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement comment on a procédé ?
Eh bien, avec plaisir, Solène, en tant que néo-cartomancier et diseur de bonne aventure, j'exagère bien évidemment, je vais vous expliquer un peu plus les procédés de tirage d'une carte, et notamment dans notre histoire de trois cartes. Les méthodes qu'on a utilisées sont couramment utilisées pour obtenir des aperçus sur la vie et le destin d'une personne, et donc de nos personnages. À partir de là, l'idée était très simple. On a tiré des cartes, on a mélangé soigneusement le paquet pour laisser la part au mystère, nous avons sélectionné trois tirages, le passé, le présent et le futur. Et à partir de ces explications, nous avons défini notre aventure.
Pour le premier épisode qui a été diffusé début octobre, nous avions tiré le 9 d'épée. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la signification de cette carte ?
Oui, écoute Solène, avec plaisir. Le 9 d'épée, c'est une carte de tarot qui symbolise l'anxiété, la peur et l'angoisse. On peut y voir une personne tourmentée par ses pensées. Souvent la nuit, la carte que nous avons tirée, les couleurs sont assez sombres et elle est donc incapable de trouver le sommeil malgré le fait qu'elle soit allongée, comme si elle était animée par des cauchemars. Ce qui nous a donc fait penser au tombeau du roi Hector.
Merci beaucoup. Et pour l'épisode qui suit, nous avons tiré le 10 de coupe. Quelle est la signification de cette carte ?
Eh bien pour le 10 de coupe, nous l'avons tiré à l'envers, ce qui n'a pas du tout la même signification quand on tire une carte à l'endroit. Et dans notre cas, la carte représente des problèmes de famille. Une personne qui n'est plus alignée avec ses valeurs, et donc la fin d'une belle période, ce que vous pourrez découvrir très vite.
C'est une merveilleuse introduction à l'épisode qui suit. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement, et bonne écoute à vous, à tout à l'heure.
Enfants, vainyou, faites chauffer de l'eau dans vos petits chaudrons, infusez-y de bonnes herbes de la forêt et surtout ne lésinez pas sur le miel. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous rapporter le début des aventures de nos joyeux lurons. C'était un soir de fête comme on en faisait de mon temps. Rendez-vous compte, nos jeunes garnements, Vera, Alda, Léna et mon petit-fils Félix. Ils ont eu la folle idée d'aller mettre le nez dans le tombeau du roi Hector, de le déranger dans son sommeil. Que Dieu ait son âme, comme ce bon vieux Marcel, mon diable de mari. Ils y ont découvert une coupe plus brillante qu'un écu tout beau tout neuf, avec des gravures à en faire pâlir un scribe. Oh, et vous savez quoi ? Cette trouvaille a mis le village sens dessus dessous, réveillant de vieux mystères qu'on y croyait enterrés depuis bien belle lurette. Et puis, un orage de Dieu s'est abattu sur nos citrouilles de tête, comme si le ciel les punissait de leur curiosité. Depuis, c'est comme si le village retenait son souffle, attendant de découvrir ce que le destin leur réserve. Palsambleu, cette jeunesse ! Allez, c'est pas le tout, mais j'ai un ragoût à becter avec mes croutons à l'ail, moi ! À la revoyure !
Corne guidouille, l'histoire se répète. C'est une coupe, mais pas n'importe laquelle. Elle ressemble, sur la forme tout du moins, comme deux gouttes d'eau à celle que nous avons dénichée dans le tombeau de notre bon vieux roi. Mais des détails la différencient de sa consœur.
Oh, elle a un couvercle scellé, celle-là. C'est comme si elle gardait jalousement un secret qu'elle veut partager à personne.
On s'enferme dans la chambre de Félix, nos cœurs battant la chamade. Malgré ma faim de loup, le ragoût, il attendra. Fern, sa grand-mère, n'a rien vu, rien entendu de notre dernière trouvaille. Tant mieux. Le moins ça lancé, le moins ça le risque de s'inquiéter.
Dis Félix, mon bon vieux, d'où tu sors cette merveille ?
Encore pâle comme un linge, il commence à nous expliquer les faits.
Hier soir, quand je vous ai quitté, j'ai couru comme un dératé à travers les marécages. Une fois que j'ai déboulé dans ma chambre, il y a comme une odeur infecte qui m'a pris au nez. Une odeur si abominable, Selena. On aurait dit celle des harengs rassis que vend le père de Gaspard au marché, là. Pouah, dégueu. J'ai cherché partout et j'ai fini par soulever une planche du parquet. Et là, bam, nouveau trésor. Elle était là, juste en dessous, tapis dans l'ombre. Mais comment est-ce qu'elle a pu arriver là ? Alors là, aucune idée. Hein. Et vous croyez quoi ? J'ai passé la nuit entière à essayer d'ouvrir, mais rien à y faire. C'est comme tenter d'ouvrir une conserve de gibier de grand-mère Fern. On s'y mord les doigts. Et cette odeur, mais elle suinte de l'intérieur, nom d'un cerbère, c'est comme si elle était vivante.
Le plus de mots sortent de sa bouche, le plus sa peur se fait ressentir dans la chambrée.
Et puis, à chaque fois que je force, il y a ce bruit-là. Il me donne des frissons sérieux. Comme si un liquide étrange tournoyait là-dedans. Comme s'il attendait qu'on le libère. Moi, j'avoue, ça me met mal, hein. Je vous jure.
Nous passons la coupe de main en main. Chacun la scrutant avec une attention minutieuse. Elle semble bien plus austère que la première. Peut-être jalouse de cette dernière si elle abritait des sentiments. Elle est presque modeste dans sa simplicité.
Deux bâtons gravés, alignés de manière énigmatique sur l'un des flancs, sont les seuls motifs à briser sa surface lisse. Aucun signe de fente ni de jointure visible, pas la moindre imperfection. Son mystère reste, comme la première, entier.
Comme par réflexe, à la recherche d'un soleil intérieur, nous la déposons près de la flamme d'encens d'une bougie, espérant une lueur de vérité.
Mais rien.
Elle reste là, impassible, comme si le feu n'avait aucun pouvoir sur elle, gardant jalousement son mystère.
Mais soudain, Léna s'illumine d'une idée, comme à son habitude. Sans perdre une seconde, elle plonge la main dans son sac en bandoulière et sort la première coupe.
Ses gestes, toujours plus vifs, trahissant une certaine excitation.
Elle pose la coupe du roi sur le bureau, juste à côté de la nouvelle.
Le silence s'installe un instant.
Puis, à notre stupéfaction, les deux coupes commencent à vibrer doucement, comme si une force invisible les avait soudainement sorties de leur sommeil.
Léna, sourire en coin, lance d'une voix pleine de conviction.
Hé, vous savez ce qu'on dit dans le bourg, qui se ressemble s'assemble.
Le sol de la pièce, couvert de tapis berbères usés par les années passées, semble trembler sous nos pieds.
Puis plus rien. On se regarde, béat, sans savoir quoi faire.
La tension est palpable.
Eh, regardez ça, le couvercle s'est détaché d'un coup sec. Pas besoin de tes gros bras, Félix, là. Tout est dans le cerveau, mon petit pote. C'est complètement zinzin, il s'est collé direct au socle de l'autre coupe.
Une odeur épouvantable s'échappe aussitôt.
Bah, vache, t'as raison, ça daube. C'est même plus qu'on est sur la place du marché, là. On a la gueule en plein dans les marécages.
Alda se pince le nez par peur de perdre l'odorat ad vitam aeternam. Il préfère se reculer.
Vera, elle, ne se fait pas prier. Nez bouché, pas bouché, pas de balle. Elle décide d'y voir plus clair.
Ah ah, j'en étais sûre !
À l'intérieur de la coupe, un liquide verdâtre, visqueux et écœurant, miroite à la lueur des bougies. Sa surface ondule comme un océan maudit par les âges, ou des toiles sèches délabrées, c'est selon.
Une inscription apparaît lentement, gravée le long du bord.
Goûtez à l'océan de connaissance que nul soit tué, et l'invisible guide en vous verrez.
Léna, Vera et moi croisons nos regards.
Allez, à cœur vaillant, rien d'impossible. À la santé du roi!
À notre bonne fortune, Yermat.
Un goût infernal envahit nos bouches.
Léna, elle, recule immédiatement. Son visage se crispe de dégoût.
Un pas en arrière, deux gueuletons en avant. Le vomi ne s'est pas fait attendre. Félix observe la scène en retrait. Mais avant que Vera émette ses hypothèses à voix haute, un mouvement faste des plus mystérieux attire son regard.
Oh là là, le sol ! Le sol, le sol ! Regardez, mais c'est une invasion !
Des fourmis, des dizaines, non, des centaines, non plus, des milliers de fourmis émergent du plancher, se faufilant entre les lames du parquet, formant un tapis mouvant.
Je cligne des yeux plus rapidement qu'un éclair, croyant un premier temps à une hallucination due à mon manque de sommeil. Mais vous voyez ce que je vois ? Alda me fixe et baisse les yeux vers le sol. Son expression passe de la surprise à l'horreur.
Ah, comme le bout ! C'est de la zinzinerie, des fourmis, mais c'est des libellules, ouais, elles dansent, elles volent !
Quoi, mais qu'est-ce que vous bectez ? On voit rien du tout, nous. Fourmis, libellules, qu'importe. Les insectes sont bien réels et se dirigent tout droit vers la fenêtre. Cette fois, pas de regard, pas de partage, pas de place pour la réflexion. La fougue de notre jeunesse nous pousse à suivre le chemin frayé par ces insectes aux allures multiples.
Ferme, nous voyons avec deux coupes à la main sortir entre ombres, hurle alors avec le ton de sa voix de grand-mère restant.
Attendez ! Attendez, revenez ! C'est pas ce que vous croyez !
Ouah, mais elles volent vachement vite, ces libellules, là. Je suis essoufflée, moi. Ça doit faire 15 bonnes minutes qu'on court comme des dératés en s'enfonçant dans la forêt. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, que la nuit est encore plus dense que tout à l'heure. Elles cachent tout ce qu'il y a devant moi, je vois même plus les branches.
Au loin, il y a l'air d'en avoir encore plus, comme un amas qui tapisse entièrement le sol.
Nous continuons notre course effrénée à travers les bois, dans cette forêt dense et mystérieuse. Des arbres immenses se dressent face à nous, comme des gardes silencieux guettant nos moindres pas. Les branches champignonnées s'entrelacent au-dessus de nos caboches, formant un dôme naturel, filtrant la clarté du jour, entraînée de lumière. Nous avançons, guidés par la danse frénétique de nos nouveaux animaux domestiques. L'air saturé rappelle cette senteur terreuse et humide des marécages en plein été.
Waouh, mais vous sentez cette odeur. Oh, on dirait presque la même que celle du tombeau. Et celle qu'il y avait chez moi, là. Putain, il y a un truc par ici, c'est sûr.
Nous arrivons nez à nez, au bord d'une petite mare, dont l'odeur est insoutenable. Libellule fourmis, évaporée. Aussi soudainement qu'apparue plus tôt.
Tu les vois encore, tes fourmis, Alda ?
Non, elles ont toutes disparu en plongeant dans la mare. Il y a un truc là-dedans, là, faut qu'on y aille.
Bah, je t'en prie, hein, à toi l'honneur. Moi, je mets pas un orteil dans cette eau croupie.
Je m'approche avec détermination et plonge ma main dans l'eau trouble.
Ouah, sornette baliverne, c'est-il pas que c'est super profond là-dedans ? J'y touche même pas le fond.
Nous observons la surface miroitante sous les rayons du soleil lorsque Vera s'exclame.
Hé, regardez là, il y a un truc qui brille !
Au centre de l'étang scintille quelque chose d'immergé qui semble clignoter par à coup d'une brillance légère. À peine ces mots prononcés, Vera plonge pour récupérer l'objet sans hésiter. Vera ressort de l'eau, attachée à ses doigts, une coupe en forme de clé, suspendue à une chaînette dorée. Elle émet une faible lueur qui paraît respirer. L'intensité lumineuse s'intensifie et diminue à un rythme très lent, comme le souffle d'un être endormi. Vera s'approprie directement le sésame autour du cou, hypnotisée par l'objet et son scintillement constant. Elle ne le lâche pas des yeux.
Sleeplessly embracing yon yon tint to me, plenty more deserancy, and so you finally use it. Bedding with me, you see at night your heart wears night armor under all the pine.
C'est vrai, t'as toute beauté celle-ci, vas-y, fais-nous voir, Vera.
Non, je la garde sur moi, approchez si vous voulez mieux voir. Nous fait la fin, donne-la moi et je te la rends après, promis. Non, j'ai dit, je vous la donnerai pas.
T'es grave là,
je veux juste la voir de plus près. Hein.
Félix se grommelle et Alda s'approche.
T'as vu, sur celle-ci, il n'y a rien d'écrit. Il y a juste un triangle qui entoure l'endroit d'où s'échappe la lumière.
Bon, c'est bon, vous avez vu là, bas les pattes de mon trésor. Faut trouver ce qu'elle ouvre maintenant. Je me rince un coup dans la rivière et je vous rejoins.
Félix, Alda et Léna la regardent s'éloigner vers la rivière. Félix se retourne vers les autres, frustré.
Non mais il lui prend quoi là, Vera ? Elle pète carrément en boulon. Depuis quand on n'a plus le droit de toucher les coupes ?
Non mais t'inquiète, tu connais ma sœur, elle a toujours été comme ça. Quand on était petit, elle me prêtait jamais rien, surtout pas son petit phénix en bois. Hein. C'était son jouet préféré, et puis bon, hein, après tout, Félix, c'est elle qui l'a trouvé. Hein.
Mais oui, il a raison, t'en fais pas, ça va lui passer.
Quelques minutes plus tard, Vera revint, l'air tout excité.
Wow, vous allez pas me croire! Alors j'étais tranquillement en train de me rincer dans la rivière, et tout d'un coup, j'ai remarqué que la coupe ne scintillait plus. Alors j'ai commencé à paniquer, et j'ai commencé à marcher vers le rivage. Et là, tout doucement, la lumière a commencé à réapparaître. Plus je me rapprochais de vous, et plus elle s'intensifiait. Et regardez maintenant, elle brille autant que lorsqu'on l'a trouvée. On dirait que ça réagit à quelque chose. Ou peut-être à quelqu'un.
Nos quatre compagnons reprennent la route vers le nord, en direction du cœur de la forêt des Grands Sapins, un lieu respecté et redouté de tous. Les géants sylvestres, si haut que leurs sommets se perdent dans les nuages, maintiennent le ciel au travers leur tronc immense.
Ça doit faire deux bonnes heures qu'on marche. À gauche, à droite, en faisant demi-tour parfois. On suit le rythme imposé par le signal lumineux de la coupe. Mais moi là, j'aime pas trop l'endroit vers lequel elle nous emmène. Je la connais un peu, cette forêt. Et là, on se dirige tout droit, tu sais où ? Vers la grotte de Nemours. Mes cousins, ils habitent pas très loin. Et quand on était petits, on avait interdiction d'y entrer. La nuit, il y a des bruits étranges qui en sortent, des murmures, comme des chants saccadés. Même les animaux, ils évitaient la grotte, comme s'ils savaient quelque chose que nous ne savons pas.
Ils arrivent enfin devant l'entrée sombre de la grotte. Le silence se fait pesant, l'air est lourd et glacé, comme à l'ouverture du tombeau. Une sensation de malaise envahit Félix. Son instinct hurle de faire demi-tour, le malaise grandissant à chaque seconde.
Non mais franchement... Ça sent pas bon. Faites-moi confiance, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais arrête de vouloir toujours nous ralentir, là, y en a marre à la fin ! Alda, Lena, allez, ça brille de plus en plus, suivez-moi.
Félix hésite, mais en paix avec ses convictions, il n'entrera pas, c'est certain. Les trois s'avancent alors dans la pénombre de la grotte. La coupe autour du cou de Vera, la lumière de plus en plus vive, en devient presque aveuglante. Les paroles se font de plus en plus pressantes dans la tête de Vera. Oui, la clé l'entraîne vers les profondeurs de Nemours, éclairant les parois resserrées comme un phare dans l'obscurité, omniprésente. Elle jette un regard déterminé à Alda et Lena.
Allez, là, on se bouge !
Les couloirs se rétrécissent toujours plus, comme peau de chagrin, les poussant à se contorsionner entre les parois rocheuses.
À l'extérieur de l'antre némourienne, Félix fait les 100 pas. La nuit commence à tomber, lorsque soudain, une silhouette s'approche.
Hé, petit, faut pas traîner ici à une heure pareille. Quelle sorte t'amène dans ces lieux ?
Bah, c'est mes amis, là, ils m'ont pas écouté. On a trouvé une coupe dans le tombeau du roi, puis une deuxième, et ils ont vu plein d'insectes de partout, et qui nous ont emmenés dans une mare, et où dans le fond, il y avait une coupe en forme de clé, et puis maintenant, on
Souffle
est ici, devant la grotte.
Expire tes peurs. Dis-moi. Approche-toi un peu. T'es pas le petit-fils de ferme, toi ?
Si.
T'as le même museau en trompette. Pour ton information, je suis Bosco, un vieil ami de ta famille. Ouvre grand tes esgourdes et écoute-moi bien. Ces coupes, c'est pas un jeu. Ça peut vous attirer des ennuis. Des gros ennuis.
Mais de toute façon, je le savais, mais j'aurais jamais dû les suivre. Ça sentait pas bon, cette histoire de coupe, dès le début. De toute façon, je lui aurais toujours dit pourquoi. D'un coup d'un seul, un vaste espace s'ouvre devant eux, comme un mirage au beau milieu d'un désert de sable après une âpre marche. Le halo de la clé dévoile un lac souterrain, où la surface reflète leur présence, donnant l'illusion d'une profondeur éternelle.
Au milieu du lac, un rocher jaillit, comme un iceberg, avec, à son sommet, un coffre imposant, paré d'une tête de lion ailé. Fine nageuse, Vera s'apprête à plonger tête la première pour mettre la main sur le trésor, mais l'eau se retire à mesure que la clé se rapproche du caillou. Tous les trois, ils foncent.
Regardez, il y a deux réceptacles sur le côté du coffre, de la même taille que les deux premières coupes, comme par hasard.
Sans attendre, elle encastre les deux coupes dans les réceptacles.
Partout les sapristis, les saints du village. C'est une serrure dorée. Allez, passe partout. Insère-y la clavette.
Waouh !
De nouvelles coupes! Elles sont magnifiques!
L'eau du lac commence à monter subitement, mouillant déjà leurs pieds. Léna ne sait pas nager, elle commence à paniquer.
Vera tente de porter les deux coupes, mais impossible à déloger. Elle semble enracinée dans la pierre, telle Excalibur.
Tu fais quoi à me regarder comme ça, Alda, là? Bouge-toi, viens m'aider!
Alda attrape alors une coupe de la main gauche, pendant que sa sœur fait de même de sa main droite. Comme les deux moitiés d'un même artefact, les coupes deviennent légères comme des plumes une fois réunies, ne perdant rien de leur valeur, mais comme libérées de leur poids initial. Ils s'échangent un sourire de satisfaction et commencent à courir vers le couloir. Mais le poids de l'eau sur leur corps les ralentit. Elle atteint désormais leurs genoux, puis leurs hanches, prêts à les engloutir sans pitié.
Alda, Vera, à l'aide! À l'aide, j'arrive plus à avancer, je sais pas nager! Mais arrêtez-vous là, je sais pas nager, je vous dis, venez m'aider!
Les coupes ou Léna. Alda a fait son choix. Ses larmes se mêlent au torrent de vagues. Sous l'emprise de sa sœur, il nage main à main vers la sortie, laissant derrière eux l'écho d'une déchirure silencieuse.
Vous en avez trouvé combien des coupes ?
Trois.
Et tes acolytes de toujours, ils commencent pas à perdre un peu la boule par hasard ?
Arrivés au bout du souterrain, Vera et Alda, à bout de souffle, les coupes serrées entre leurs mains, se retournent. La main de Léna, elle, s'immerge, des bulles se dissipant à la surface, avant de disparaître dans les abysses. De la lumière aux abysses, jusqu'où va continuer cette quête qui semble prendre une nouvelle tournure. Le prochain et dernier épisode des aventures des habitants de Saint-Roustan sera diffusé le 8 décembre sur Prune 92 FM. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast sur prune.net. À bientôt.